Un bon boulot, témoignages et discussions sur les grandeurs et les misères du travail. Selon Christophe Dejour, médecin, le travail est une promesse d'accomplissement de soi, souvent non tenue. Comment faire de son travail à la fois un plaisir, une source de reconnaissance et une source de revenus? Salariés, entrepreneurs, artistes, les parcours sont multiples et les trajectoires singulières, hybrides, mais toujours riches d'enseignements. Nous parlons métier, épanouissement au travail, nous cherchons aussi à comprendre comment un bon boulot pourrait devenir un sale boulot. Bonjour Thomas Daoula.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien et chercheur en histoire de la chirurgie, quand même. Et vous défendez aussi une conception, rapidement dit, hein, une grosse valise, on pourrait dire low-tech, de la, qui veut dire low, c'est bas, tech, technologie, donc technologie sobre, en chirurgie, à l'heure où les hôpitaux s'équipent en robots très chers. Lors de la dernière émission, on a vu le métier, hein, on a vu les compétences, on est rentré dans vos salles d'opération. Peut-être il y a un point que je n'ai pas assez développé, on va l'aborder, puis après on va parler du métier d'historien. Ce que je n'ai pas abordé, et pourtant vous le prenez, c'est vraiment, vous le mettez au cœur de votre métier. Comment ça se passe, la relation, dès le premier contact avec un patient?
En urgence ou...
Ah non, pas encore en urgence, on est dans l'urgence. Avec quelqu'un, je viens vous voir, je vais prendre un exemple concret, parce que vous avez co-écrit un article là-dessus. Je suis violoniste, j'ai 65 ans, et je ne peux plus faire le si dièse, ou c'est le si dièse, si bémol, j'arrive plus à le faire, parce que mon index a perdu de la force. Je viens vous voir. Que pouvez-vous faire pour moi? Alors, et ce qui m'intéresse, c'est comment vous me regardez, comment vous faites vos estimations, comment vous lancez dans quelque chose et comment vous allez creuser la personne qui vient, ce violoniste, pour essayer de voir, commencer déjà à faire des schémas sur les modes d'intervention possibles. Mmh. Ou au contraire, lui dit, mon pauvre monsieur, 65 ans, c'est terminé.
Ouais. Là, vous venez avec un problème très spécifique. Donc, ouais. En fait, vous m'avez déjà mâché le travail. Si vous venez, vous me dites déjà exactement ce que vous devriez attendre. Il se trouve que c'est vrai que le sportif de haut niveau et le musicien, c'est à peu près le même patient. C'est une attente très, très spécifique avec un haut degré d'attente fonctionnelle. Et donc, sportif de haut niveau et musicien, c'est un peu la même façon de réfléchir. C'est-à-dire que
c'est ce que vous préférez travailler ou...
Non, moi, j'aime beaucoup, mais ce n'est pas ce que je préfère dans le sens où... j'aime tout autant opérer un travailleur manuel qui aura un degré d'attente moins fin, mais tout aussi capital, parce que lui, il va plutôt chercher de la force que de la précision, etc. Donc, c'est toujours à l'inverse, le violoniste, la force, il va moins aller la chercher et c'est plutôt la précision, etc. Donc, c'est vraiment... Non, moi, ce que j'aime bien, c'est justement... Il n'y a pas de patient que je préfère, c'est justement réfléchir par rapport à tel patient, par rapport à telle attente. Mais en tout cas, le violoniste, c'est un sportif de haut niveau.
Ouais.
Dans sa façon d'appréhender sa pratique. Et comme tout sportif de haut niveau, il arrive avec une demande très précise, je n'arrive plus à faire mon si bémol. Comme le sportif de haut niveau va dire, à partir du 31e kilomètre, j'ai un peu mal sur le côté, machin. C'est très, très précis à chaque fois. C'est ça, les sportifs de haut niveau.
Ouais.
C'est de la chirurgie sportive, chirurgie musicien, c'est des demandes très, très spécifiques. À l'inverse, en général, c'est des dames, parce que c'est plutôt c'est une pathologie féminine. J'ai mal à la base du pouce. Je ne saurais pas trop vous dire quand, mais ça me gêne. Et des fois, ça fait très, très mal. Et là, on voit qu'il y a une grosse arthrose de la base du pouce. Et pourtant, il n'y a pas de phénomène vraiment. Y a pas... Et à l'inverse, le violoniste, c'est mon si bémol, je ne peux plus le faire à partir de la centième mesure de tel morceau. Des fois, c'est aussi précis que ça. Donc là, voilà, le musicien, c'est déjà un cas très, très spécifique. Donc déjà, on aime bien que les gens viennent avec leur instrument en consultation pour nous montrer, parce que des fois, en fait, ils ont des postures qu'il nous faut comprendre des choses, etc. Donc quand c'est possible, Si c'est un violon, j'aime bien que le patient vienne avec son instrument pour le voir.
Et ça, c'est Dr Florian Lecoq de la clinique de Nantes qui me l'a appris. Qui m'a dit, c'est bien que le patient vienne avec son instrument. Elle m'a appris ça, et maintenant je fais pareil qu'elle. Je suis à ses recommandations. Elle est spécialiste de la chirurgie musicienne, pour le coup. Et donc, j'examine, etc. Je regarde vraiment quelles sont ses attentes et qu'est-ce que je peux lui proposer. Et des fois, la solution n'est pas chirurgicale. Pour le musicien en particulier, la solution va parfois du luthier.
Oui, on est renommé là.
Voilà, donc en fait, s'il ne peut plus faire son si bémol, comme vous dites, bah peut-être qu'en fait le luthier va pouvoir en fait raccourcir un petit peu telle ou telle partie de l'instrument ou bien rehausser un endroit, etc. Et notamment pour les musiciens qui se blessent la main, qui ne peuvent plus jouer comme avant, clarinettistes, etc. Des fois, on met en fait des petits supports pour rehausser tel ou tel endroit.
Ouais, c'est orthésiste, vous faites.
Voilà, bah, c'est pas moi qui m'en occupe là, mais en fait, je conseille d'abord parfois. Des fois, il y a un problème chirurgical évident, mais des fois, je conseille d'aller voir un luthier pour voir ce qu'il peut faire aussi. Parce que le bistouri permet de régler des problèmes, mais en crée des fois des nouveaux.
Ça m'amène une autre question que je n'avais pas prévue, mais parce que j'ai l'impression que les maladies musculo-squelettiques ont augmenté, parce que les cadences ont augmenté, parce que, bon, c'est peut-être c'est une hypothèse que je fais sur la base de pas grand tableau Excel, mais bon... En tout cas, par exemple, chez les désosseurs, que sont des chirurgiens, mais je pense aux gens qui travaillent dans les abattoirs, je pense même aux secrétaires qui tapent sur les claviers, etc. Est-ce que ça, vous avez constaté, vous, ça, dans vos interventions, que ces maladies-là nécessitent plus de chirurgie?
Ben, moi, en fait, ça fait pas très longtemps que je suis.
Oui, oui, vous n'avez pas un gros cul historique.
Ah non, moi, j'ai pas 60 ans, du coup, je peux pas trop dire. J'ai pas un recul, une profondeur pour y remettre une dynamique sur 10 dizaines d'années. Là.
Mais la question annexe, alors, c'est est-ce qu'il vous est. Pourrez-vous venir à l'esprit d'aller visiter un atelier pour voir comment quelqu'un travaille parce qu'il y a son pouce qui lui fait mal ou alors vous l'interrogez sur sa façon de
Franchement,
travailler?
Franchement, j'adorerais, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Ouais, mais c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Mais à ce moment-là, il faudrait faire pour tous les métiers. Et ça, c'est le rôle du médecin du travail, pour le coup.
C'est vrai.
Le rôle du médecin du travail, c'est justement d'analyser le terrain, etc. Mais moi, j'adorerais accompagner les patients, voir, tiens, qu'est-ce qui te fait mal? Ah ouais, c'est ça, ah, d'accord. Okay. Mais bon, là... Enfin,
d'accord.
Là, si je fais ça...
Ouais, ça vous avez plus le temps. Mais attends, ça prend de...
Mais ce serait passionnant.
Combien de temps vous preniez en général? Enfin, c'est peut-être pas...
En consultation, quoi.
Ouais.
Ça peut aller de 2 minutes à 3 quarts d'heure.
Ah oui, quand même. Ouais.
Voilà.
D'accord.
Globalement.
Et à l'issue de cette rencontre, vous avez déjà des hypothèses assez fortes?
À l'issue de la première rencontre?
Ouais.
Bah, la première rencontre me permet de faire déjà un premier bilan de débrouillage qui, normalement, a déjà été fait par le médecin généraliste, mais qu'il faut souvent compléter par certains petits trucs et tout, de spécialistes, en fait. Je prescris des examens complémentaires si besoin. Parfois il n'y a rien et je vois très bien que c'est un problème qui n'est pas chirurgical et je renvoie vers la spécialité concernée, et des fois c'est un problème qui est chirurgical évident et je programme directement l'intervention, mais c'est rare quand même.
D'accord.
En général, je vois au moins 2 fois les patients avant de les opérer.
Je vois le temps qui file. On va aller directement sur le métier de chercheur en histoire. Rapidement dit, je résume la chose. Moi, je vous ai rencontré comme ça. Vous étiez dans un colloque de labo d'épistémologie, enfin histoire des sciences, et vous avez présenté vos travaux sur l'histoire de la chirurgie sur la période qui tourne autour de la naissance du Christ, c'est ça à peu près?
Ouais, la période que vous appelez le Haut Empire romain. C'est...
Le Haut Empire romain. Et je résume encore une fois très rapidement, à partir d'outils qu'on a retrouvés, qu'on présume être des outils du chirurgien, vous avez refabriqué avec un laboratoire qui sait faire ça, ces outils, et vous faites ce qu'on appelle de la chirurgie expérimentale, c'est-à-dire à partir des textes des historiens de l'époque et de l'outil, vous refaites le geste pour voir si l'historien a bien décrit les choses. C'est à peu près ça, votre recherche.
Alors, ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale,
oui.
L'archéologie expérimentale, c'est une technique qui est peu réalisée dans le champ de l'archéologie, et encore moins pour la période de l'Antiquité. Mais qui consiste à recréer dans des conditions contrôlées une technique, donc ça peut être la navigation, ça peut être de l'agriculture, etc., pour en analyser en fait les les possibilités et les rendements. Par exemple, on recrée une meule à grains pour voir quel rendement pouvait avoir telle ou telle ferme, etc. On recrée un bateau pour voir comment il remonte au vent dans tel ou tel contexte et après, de ça, voir si telle ou telle route maritime est plausible, etc. Donc ça, c'est de l'archéologie expérimentale. Et nous, on fait la même chose en chirurgie, c'est-à-dire qu'on recrée les interventions présumées que faisait tel ou tel chirurgien pour telle ou telle technique, avec tel ou tel instrument, recréé en conditions contrôlées, pour voir si une intervention était possible ou, et si elle l'était, à quel point elle était dangereuse pour telle structure anatomique, etc. Comment ça sous-entend de faire un gros travail de recherche en amont. La partie finale où on fait vraiment l'expérimentation, c'est la dernière et au final
elle est courte par rapport à tout le reste.
Ah bah elle est très courte et en fait on est censé c'est juste la carrosserie au-dessus du moteur quoi. Toute la méthodologie c'est
comment l'idée de cette recherche vous est venue?
Eh ben alors là j'étais avec en vacances avec un copain qui est chirurgien esthétique et reconstructeur à Paris. On était tous les deux à Pompéi et on se baladait, on voit les instruments au MAN, au Muséum national d'archéologie, et on s'est dit, ah, vache, c'est les mêmes que ceux qu'on utilise maintenant, donc je suis rentré à Brest, etc., je voulais voir professeur Lenen, et je lui ai dit, moi j'ai vu ça, je me demandais si on pourrait pas faire un travail dessus. Et il m'a dit, mais tu devrais même en faire ta thèse.
Comment, il avait dit quoi?
Il m'a dit, tu devrais même en faire ta thèse.
Ah, carrément, c'est la thèse de...
Non, c'est pas la thèse de médecine, c'est la thèse de médecine. Ma thèse.
Ah, d'accord, ouais.
Et donc, moi, j'étais jeune interne à ce moment-là, et je suis vas-y, feu, parti. Et donc, j'ai fait ma thèse de médecine sur les instruments chirurgicaux dans la pierre romaine.
Ça suppose de mettre en place toute une équipe aussi, ça, pour retrouver...
Ah oui,
faut les refaire d'abord, il faut les...
Effectivement, comme tout, on ne peut pas travailler tout seul. Sinon, je suis juste un amateur d'histoire qui a lu des bouquins et qui a écouté des podcasts sur Internet, quoi. C'est pas possible, ça. On peut pas faire...
C'est possible, mais pas pour faire une thèse.
Mais on peut pas faire de... Mais non, mais même, on peut pas produire un résultat scientifique tout seul avec mon bagage historique qui correspond à j'ai lu 3 livres sur le sujet. C'est pas possible, ça. J'ai pas de méthodologie. Donc, comment on fait? On s'entoure d'historiens et de latinistes. Et en l'occurrence, j'ai rapidement rencontré une dame qui s'appelle Muriel Labonelli, qui est maître de conférence en langue latine à la Sorbonne et spécialiste de la médecine dans l'Empire romain. Et depuis, Muriel, c'est presque quelqu'un de ma famille maintenant.
Vous l'avez convaincu facilement tout de suite.
Ah, tout de suite. Le courant est passé instantanément. Et maintenant, donc elle est devenue ma maître de thèse. Avec Muriel, maintenant, on a une relation extrêmement rapprochée. Moi, je pense que je considère Muriel comme quelqu'un de ma famille, quasiment. Non,
alors.
Elle m'a accompagné depuis le début sur ce projet. Elle a rendu... Elle est latiniste, elle est historienne et elle est professeure de langue latine, mais aussi spécialiste de la médecine dans l'Empire romain. Et Muriel a transformé en fait le projet de un chirurgien qui aime bien l'histoire à une équipe de chercheurs en histoire qui produisent des résultats scientifiquement viables.
D'accord.
Ce qui n'aurait été jamais possible si j'avais fait le travail tout seul ou avec des copains chirurgiens.
Ouais, ça c'est merveilleux.
Aïe, c'est l'interdisciplinarité à mener à faire quelque chose d'original. Parce que il n'y a pas beaucoup d'historiens qui s'intéressent à l'archéologie expérimentale en chirurgie, parce que ils vont pas opérer sur des cadavres, parce que c'est des historiens, donc ils peuvent pas faire. Mais à l'inverse, les chirurgiens qui s'entourent d'une équipe interdisciplinaire associant des historiens, des archéologues, des ingénieurs, etc., il y en a pas beaucoup non plus. Donc ça fait des projets qui sont originaux.
Et que vous avez dit aussi fabriquer les outils, là c'est le...
Alors c'est pas moi qui les ai fabriqués.
Non, faire fabriquer.
C'est un collègue.
C'est le Lapim de
Gore. C'est surtout et avant tout un forgeron qui est à Munich, qui s'appelle Martin Moser.
Ah, c'est vrai?
Oui, et qui s'est déplacé jusqu'à Brest pour nous apporter les instruments et qui a assisté au protocole d'archéologie expérimentale. Et c'est lui qui a...
Là-dedans, il faisait déjà...
Parce que je l'ai trouvé, sur Internet, j'ai vu qu'il reproduisait des instruments, j'ai envoyé un mail, je lui ai dit, il reproduisait des petits objets d'époque médiévale, pour des films, etc., des chaussures, etc. Il faisait aussi un peu de forge. J'ai vu ce qu'il faisait, c'était magnifique. Je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de
reproduire qu'est-ce que les instruments et tout. Il a tout fait gratuitement.
C'est vrai.
Et il est venu avec tous ses instruments. Et...
Super, c'est vraiment bien, c'est une belle histoire, ça. Et quel était son intérêt, j'imagine, c'est de, bah, de voir ses opérations.
Son intérêt,
autre, quoi, peut-être.
L'intérêt scientifique.
Oui, aussi. Ouais. C'est pas personne... scientifique, lui, c'est un accessoiriste de cinéma au départ.
Oui, mais pour autant.
Il a la curiosité.
Ah ouais, et puis il comprenait ce qu'on faisait. Hein.
Ouais, sans doute.
C'est ce genre de gars, pas besoin d'expliquer trois fois, quoi. Et il a compris instantanément quelle était la structure qu'on coupait, etc.
Et après, il a fallu soit faire des moules de ces instruments, soit les reproduire en 3D ou...
Bah, on a fait quelques... Oui, bien sûr. Et puis, il y a un ingénieur du LATIM, donc le Laboratoire de Traitement d'Information Médicale de Brest, qui s'appelle Joël Savéan, qui a énormément travaillé sur le sujet, autant que moi quasiment, et qui a développé avec moi la méthodologie d'archéologie expérimentale et qui a aussi lui-même fabriqué des instruments.
Et après, il a fallu donc trouver des cadavres.
Bah ça c'est après ça c'est des demandes qu'on fait au laboratoire.
Ça fait un papier qu'on remplit et on le trouve, ouais.
Et ah non mais alors avant toute chose, il faut que tout ça soit validé par un comité éthique.
Et bien sûr.
Parce que il y a c'est pas à moi de décider si tel ou tel projet est éthique ou pas. Il y a un comité éthique
du CHU,
oui, pluridisciplinaire qui décide si tel ou tel projet est OK ou pas. Et des fois, c'est non. Des fois, c'est oui avec modification. Et des fois, c'est oui, il n'y a pas de problème.
Là, il y avait des modifications.
Non. J'avais envoyé le protocole qu'on comptait faire, etc. Et avec les objectifs, c'est pas tiens, j'ai envie de faire 6-1. C'est un protocole de recherche avec une méthodologie, un objectif principal, tel objectif secondaire, combien on a besoin, etc. Combien de temps, qui va y avoir qui on a besoin pendant les expérimentations. Pourquoi cette personne, on a besoin qu'elle soit là, quelles sont ses qualifications, etc. Tout ça, le comité éthique l'examine et nous donne un avis favorable ou pas. Et normalement, si la méthodologie est bien construite, etc., ben, l'avis favorable n'est pas difficile à avoir. Mais
il fallait de l'argent aussi
Non, alors là, le laboratoire d'anatomie nous a permis de le faire sans dépenser d'argent.
On vous a déchargé de certaines
heures ? Normalement, c'est 1 500 € par cadavre.
Je n'ai pas compris, là, 1 500 € par cadavre.
La recherche, si là, je veux tester une nouvelle technique, etc., c'est à peu près 1 500 € le cadavre.
Ah, d'accord, je ne connaissais pas le cours du
cadavre. C'est à confirmer, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis, mais c'est l'ordre de grandeur. Hein. C'est peut-être moins, peut-être plus, mais c'est dans cet ordre de grandeur-là. Ouais.
D'accord, donc là, vous avez l'argent qu'il faut, vous avez le temps qu'il faut, vous avez les collègues qu'il faut. Et vous faites les opérations et comme c'est une thèse, vous ne connaissez pas le résultat d'avance a priori, qu'est-ce que vous avez fait apparaître ou qu'est-ce que vous avez confirmé comme connaissance ?
On a travaillé sur trois grandes interventions. La trépanation, donc le fait de faire un trou dans la boîte crânienne à visée thérapeutique pour libérer la pression, par exemple en cas d'hématome intracrânien, etc.
Parce que les Romains le faisaient déjà.
Bien sûr. C'est néolithique.
Néolithique.
Bien sûr.
On a trouvé des crânes.
C'est beaucoup plus vieux que les Romains. Mais donc ça, c'est un geste salvateur, hein, un hématome intracrânien, intracérébral, qui peut entraîner la mort du patient très rapidement et qui peut être traité assez facilement en faisant tout simplement un trou dans votre crâne. Faut-il encore ne pas léser les enveloppes cérébrales sous-jacentes ? Oui. Là est toute la question. Mais la trépanation, c'est un des plus vieux gestes chirurgicaux connus, et sa pratique était usuelle dans l'Empire romain. Deuxième technique, c'était le retrait des flèches, qui étaient une fois plantées, comment on fait pour la retirer.
Oui, je vais vous l'expliquer, c'est-à-dire la flèche a un système de non-retour, on peut s'arracher.
Et alors, comment on fait ? Faut-il encore ? Est-ce qu'il faut absolument la retirer ou est-ce qu'on ne peut pas la laisser en place, etc. Donc, tout ça. Et troisième chose, les amputations. Donc, comment on ampute dans l'Empire romain, comment on fait une amputation transtibiale, transfémorale, etc.
Donc, les résultats de votre travail, c'est confirmer l'usage de l'outil, confirmer peut-être les opérations qui étaient possibles. Mais si vous trompez, j'espère, sur certains outils, peut-être, qui n'étaient pas des outils de chirurgien. Or, ils étaient qualifiés d'outils de chirurgien.
Alors, il y a une frontière très poreuse entre la chirurgie et la cosmétique.
Il y a beaucoup de pinces, par exemple, ou de spatules qui sont en fait utilisées à des fins chirurgicales qu'aujourd'hui on qualifierait de cosmétiques, et vice-versa. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça mon champ de recherche. Mais mon champ de recherche, c'est surtout de requalifier certains objets, comme on faisait la trépanation avec ça, ou bien et en fait, quand on l'essaye, on dit oula, mais attends, c'est presque impossible de faire
une trépanation pour l'utiliser.
C'est tout fait très difficile, voire impossible, etc. Et où on retirait une flèche avec cet instrument-là, regarde comment ça marche bien. Non, ça ne marche pas du tout, c'est impossible. À l'inverse, une autre solution beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteuse en matériel et regarde, je fais comme ça et là, tac, ça marche tout de suite.
Oui, moi je voudrais introduire une remarque, mais c'est juste pour vous amener dans le fond du fond. Parce que les Romains opéraient sans anesthésiste, donc ils ont les gens qui hurlent ou qui sont en souffrance absolument atroce, j'imagine, et sans asepsie non plus. Et vous allez travailler sur un cadavre, il est assez calme en général. Vous posez des questions là-dessus, parce que vous essayez de la vraisemblance, vous testez la vraisemblance du geste et de l'outil. Est-ce que vous imaginez, au moins pour votre, je sais pas, dans votre tête, le gars vivant qu'on est en train de découper et qui hurle comme un malade?
Alors, le principe d'un modèle, c'est qu'il a ses limites. Et donc, l'archéologie expérimentale, c'est testé dans un modèle, mais c'est testé un modèle de reconstitution contrôlé méthodologiquement, d'accord ? Et un modèle a inévitablement des limites qu'il faut discuter dans la discussion d'un article scientifique.
Oui.
Et comme tout article, toute méthodologie a des limites par définition. Et ces limites-là sont les limites majeures du cadavre comme modèle expérimental pour reproduire des interventions chirurgicales anciennes. C'est la 2. C'est 1. Ça ne saigne pas.
Oui, ça c'est énorme pour le chirurgien.
Ça ne saigne pas. J'ai rien qu'il y en a 3. 1. Ça ne saigne pas. Donc, on voit les structures très facilement sans avoir des flots de sang qui nous arrivent dessus, etc. Et sans avoir à tamponner en permanence. Voilà. Donc, on est dans de bien meilleures conditions. 2, on a la lumière. Et le bois, c'est mon collègue chirurgien esthétique à Paris qui fait beaucoup de missions militaires et qui se rend compte qu'en fait, quand il est en milieu précaire, il n'a souvent pas la lumière qu'il veut. Quand on n'a pas de lumière, on ne peut pas opérer parce qu'on est dans des trous de souris. On voit rien. Donc, en fait, il se met une lampe frontale. Il prend toujours une lampe frontale quand il part en mission. Et il n'y avait pas de lumière, pas de lampe frontale, lampe urbaine. Donc, ça, c'est très difficile aussi. Et troisième chose, bien sûr, le patient ne bouge pas. Parce que là, on a un cadavre. Donc, c'est les trois limites majeures de notre modèle.
Mais qu'on peut circonscrire. Vous pouvez circonscrire les conditions de validité.
Malgré ces limites majeures, les gestes qu'on teste ne sont pas biaisés par ces limites-là. C'est-à-dire que la flèche, l'instrument qu'on utilise pour retirer la flèche, ne sera pas, si on n'arrive pas à retirer la flèche avec cet instrument-là, dans une condition où le patient ne saigne pas, ne bouge pas,
oui,
et on a la lumière qu'on veut, c'est que probablement s'il bouge, qu'il saigne et qu'on n'a pas de lumière, on n'y arrivera pas non plus.
C'est vrai.
Voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut conclure.
D'accord. Je vois le temps qui tourne et on va faire directement, mais il y a le lien avec les médias. Vous intéressez donc à la médecine avec des outils très, très, très anciens. Et j'imagine qu'ils ne comptaient pas les morts, mais ils avaient aussi du succès. Bon. Et votre hypothèse, si je comprends bien, c'est que, enfin, ce n'est pas une hypothèse, vous l'affirmez même, c'est que les outils, en tout cas les outils de base de type bistouri, on peut évoluer, les gestes, on peut évoluer. Et parallèlement, lors de notre dernier entretien, vous mettiez en avant peut-être la nécessité, pour plein de raisons, de la low-tech, c'est-à-dire de promouvoir, y compris en chirurgie, l'usage d'instruments simples et disponibles dans tous les pays du monde, y compris les moins équipés,
c'est bien sûr.
Et alors, moi, la question précise que je vais poser, c'est... C'est de quelle manière les études que vous faites sur les outils romains, là, les outils de chirurgie romains, vous aident aujourd'hui à comprendre la chirurgie d'aujourd'hui et vous donnent peut-être des idées pour l'évolution et pour pointer des besoins en chirurgie en France, mais aussi à Madagascar, mais aussi au Cambodge, etc.
Alors, bon, tout d'abord, le pont avec la chirurgie humanitaire
est dangereux à faire parce que de dire qu'il faut faire du low-tech quand on est à Madagascar, je trouve ça dangereux parce qu'en fait, ça sous-entend qu'on abandonne un peu l'idée de pouvoir faire mieux. Donc, je suis assez opposé à ça. D'autant plus qu'en fait, quand on va au Cambodge, enfin, comme là, je parle du Cambodge parce que j'y étais encore avant-hier, mais c'est et quand on est au Cambodge, on se rend compte qu'en fait, les chirurgiens là-bas font des interventions de très, très, très haute voltige, extrêmement complexes et de façon absolument parfaite, avec moins de matériel que nous, mais avec des résultats qui sont magnifiques. Donc, c'est une leçon un peu d'humilité mal placée dans le sens où on devrait être au courant qu'on n'est pas au summum de la chaîne alimentaire, mais malgré tout, certains le pensent quand même. Et quand on voit les chirurgiens au Cambodge, là, qui j'opérais la semaine dernière, qui font certaines interventions que je suis complètement incapable de faire qui le font avec une aisance absolument phénoménale, avec moins de matériel. Alors, le pont qu'on fait avec l'histoire, c'est que tout est une histoire de contexte. Quand on est dans un contexte dans l'Empire romain où, effectivement, on a peu d'anesthésie, l'asepsie, attention, parce que l'asepsie est quand même, existe quand même. Hein, les principes d'asepsie sont développés par Pasteur puis Lister au début du XXe siècle, mais malgré tout, le corpus hippocratique, moins 500 avant Jésus-Christ, dit déjà qu'il faut laver les instruments à l'eau bouillante, etc. Donc, c'est les principes d'asepsie dans la physiologie du truc ne sont pas compris. Mais quand on dit à l'époque qu'ils n'avaient aucune notion d'asepsie, et c'est ce qui est soutenu notamment par certains professeurs d'histoire de la médecine de Paris, qui dit à l'époque de l'Antiquité, ils n'avaient aucune notion d'asepsie, c'est complètement faux.
Et ça a perdu après au fil des...
Alors non, alors pareil, la perte des connaissances au Moyen-Âge, c'est une vision Troisième République qui crée un roman national de la perte des connaissances qui est passée au monde arabe et qui revient en Europe comme si c'était ce qu'on appelle la théologie. C'est la théologie.
Le racin.
La finalité, c'était l'Europe. Là, évidemment, le monde arabe n'a pas du tout été juste un garant du savoir européen et l'a restitué. Le monde arabe, la chirurgie arabe. Alors, quand on dit la chirurgie arabe, c'est un peu spécial parce que c'est majoritairement en actuel Perse. Et donc, l'Iran n'a rien d'arabe. Malgré tout, on dit quand même la chirurgie arabe parce qu'ils écrivaient en arabe. Donc, la médecine arabe en Iran actuel, c'est pas vraiment une erreur de dire la médecine arabe puisque l'écriture est arabe. Et donc, en fait, c'est notamment Ispahan, qui est au cœur de l'Iran actuel. On dit que c'est la médecine arabe. Mais je précise quand même, parce que sinon, on va dire, non, mais ils confondent tout. Ils parlent de médecine arabe, ils parlent de l'Iran, mais ça n'a rien à voir. Mais oui, mais on dit quand même, en tout cas, ça. Mais le monde arabe et perse a été le gardien, effectivement, des savoirs qui se sont un peu perdus au Moyen-Âge en Europe, mais n'a pas que fait ça. Ça serait très réducteur pour la chirurgie arabe, et notamment d'Avicenne, d'Abdul Qassis, donc Aboul al-Hassim, qui a colligé tous les traités médicaux antiques, mais qui a aussi énormément travaillé lui-même. Et puis, il y a eu un carrefour d'influence avec la chirurgie indienne, qui avait des avancées monumentales et en termes d'asepsie, et en termes de reconstruction, notamment de lambeaux, nasaux, etc. Donc tout ça, c'est très européano-centré, et ça me gêne un peu, parce que en fait, ça sous-entend que nous, on serait la finalité, la théologie. Ça finit par l'Europe, ça commence par l'Europe, ça finit par l'Europe. Non, c'est pas vraiment...
D'accord, oui, non, mais c'est bien, c'était des choses...
Les préjugés
à préciser, on a...
Ils sont très 18e siècle roman national, quoi.
Ok, non, mais il fallait le dire, c'était très important. Pour aller plus radicalement dans la question, hier j'ai écouté une émission sur France Culture, chers collègues, sur les robots dans la chirurgie qui valent 400 millions, maintenant l'Iran aussi, mais qui permettent, je prends comme ça un peu au hasard de mes souvenirs, c'est hier, mais j'ai quand même oublié, au lieu de faire une incision, par exemple, de 2 cm, vous faites 5 mm, au lieu d'avoir dans votre main une mobilité de 360 degrés entre pronation et suppination, vous avez 450 degrés parce que la machine peut continuer à tourner. Au lieu d'opérer sans vraiment voir tout, vous avez des caméras qui vont, etc. Donc, la nouvelle, les nouvelles technologies apportent des choses à un prix très très cher, certes, mais apportent aussi des vrais savoir-faire. La seule critique que j'ai entendue hier dans cette émission, c'était qu'il pouvait y avoir des pertes du geste. À force de travailler avec des machines, on peut perdre les gestes de base. Alors, ma question globale, c'est peut-on prôner le low-tech? Pour quelles raisons? Et quel est alors l'intérêt de ces robots? Et quelle est la limite de cette tendance à vouloir équiper tous les laboratoires de robots?
Alors déjà, je vais me faire l'avocat du diable. L'argument de la perte de geste, je ne l'entends pas du tout, parce que c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Dès qu'il y a un nouveau truc qui apparaît, on dit oui, mais les jeunes, ils ne sauront plus faire ci, ça, ça. Mais déjà, alors Velpo, donc les bandes Velpo, le truc qu'on utilise tout le temps en bloc opératoire, lors de l'apparition de l'anesthésie, ils disaient « Ah non, je suis complètement contre l'anesthésie. » Velpo disait « Je n'aime pas l'anesthésie parce que je dois garder un contact avec mon malade quand j'opère. » Oui, bon, bah, super. Donc voilà, à chaque fois, quand on a commencé à avoir telle ou telle invention, là, par exemple, les dentistes qui ont les capteurs numériques pour faire leurs implants, ils disent « Ah, mais c'est pas normal, du coup, les jeunes, ils ne sauront plus faire à la main. » Oui, mais c'est comme ça, à chaque fois qu'il y a une innovation, les gens disent « Ah, les jeunes ne sauront plus faire. » Donc là, le robot, c'est pareil, c'est « Ah, mais non, on ne va pas faire un robot, parce que les jeunes, ils ne sauront plus opérer en vrai. » Oui, mais c'est à ce moment-là…
Sur le superflu ou pas le superflu.
Ouais. Et par contre, alors, donc, le robot, bah, magnifique, mais super le robot, ça, je suis totalement d'accord que… avoir une chronospination de 450 degrés, c'est factuellement mieux que d'avoir une chronospination de 180 degrés comme un humain normal. Mais déjà, pour qui? Est-ce qu'on peut, en 2026, vraiment, vraiment, à l'heure où on vit une crise des matériaux qui est mondiale, à l'heure où on a un effondrement global de la biodiversité dû à l'activité humaine? Et le médical en fait partie, à l'heure où il y a encore une immense majorité des pays qui ne peuvent pas avoir les soins les soins les plus basiques, c'est-à-dire mettre une broche de bon diamètre, donc une tige métallique dans un os. Est-ce qu'on peut vraiment en toute honnêteté dire qu'il y a un moment où l'intégralité de l'humanité aura accès à ce genre de technologie?
Oui, mais ceux qui fabriquent ne pensent pas.
Bah oui, mais c'est. Et au bout d'un moment, il faut quand même se poser la question. Est-ce qu'on est en droit de se dire que là, on utilise vraiment nos connaissances pour servir le bien commun, ou est-ce qu'on va que soigner le pourcent le plus riche de la population mondiale? Moi, je pense que la question est toute donnée. C'est évidemment que c'est de la chirurgie pour riches. Donc, on est en train de développer des solutions qui fonctionnent factuellement, voilà, mais pour une partie infime de la population mondiale. Et je trouve que déontologiquement, c'est répréhensible. Maintenant,
donc, en fait, c'est une argumentation de type politique.
Oui, alors ça, c'est politique. Mais maintenant, si on regarde vraiment médicalement, okay, on se dit très bien, bah, maintenant, on est dans un monde où tout le monde a accès à cette technologie, on a une baguette magique, tout le monde a accès aux robots. Super. Alors, je ne me permettrai pas de parler pour les autres spécialités, mais il se trouve que pour la chirurgie orthopédique, le robot n'a pas montré la preuve de sa supériorité, point final. Voilà.
Ah, c'est vrai. C'est par exemple, l'argument que j'ai entendu hier, c'était, enfin, mais j'en sais rien, moi, hein, c'était la taille des incisions, par exemple.
Non.
Non?
Non. Le robot, pour faire des prothèses, n'a pas montré sa supériorité, ni même en incision, etc. Parce que c'est quoi le but du jeu, en fait? Le but du jeu, c'est de rendre service aux malades.
Oui,
hein, c'est la seule finalité. C'est la seule finalité, c'est qu'à la fin le malade
qui sort de vite de l'hôpital.
Non, mais même pas. C'est que on est rendu service aux malades et à la population générale. Et c'est ça la finalité de la chirurgie et du soin en général. En fait, il se trouve que le robot a montré que certes, il est plus précis. Certes, il fait un angle à 0,001 degré près, alors que moi, je fais un angle à 1 degré près. Mais, en fait, il a été prouvé à de nombreuses reprises que ça ne change rien sur le résultat clinique final. Donc, en fait, c'est une invention qui ne sert à rien.
Je me permets d'insister avec une question, une seule. Toujours en référence à l'émission de hier.
Attendez, juste par contre, je parle encore bien pour le robot en chirurgie orthopédique.
Ah oui, attends, oui, j'allais appeler un autre, aller chercher une tumeur dans la tête.
Ah bah bien sûr. Alors là, moi, j'en sais rien. Là, je ne suis pas
présent pour parler de ça. Et pas orthopédie, et pas besoin.
Bah,
en tout cas.
Et puis, est-ce qu'il y a des chirurgiens qui utilisent des robots,
bien sûr,
en mode une domaine ?
Évidemment, plein. Mais
c'est quoi leur argument ?
Leur argument, c'est qu'ils sont plus précis. Mais alors, à quel coût ? Et puis, imaginons qu'il y a un...
Les coûts, c'est bien ça, c'est 200 millions pour une machine.
Ah non, mais à quel coût de recherche ? C'est probablement beaucoup plus, puisqu'on compte aussi tout le temps de recherche et développement et tout. Oui, ou à la place, on aurait pu développer des solutions résilientes pour le bien commun. C'est là, on est en train de faire de la chirurgie pour ultra-riches. Pour les plus riches des pays les plus riches.
Oui, là, c'est...
C'est déontologiquement, c'est une catastrophe. Et, enfin, évidemment que ça va être plus précis. Évidemment que peut-être qu'on va même gagner du temps, etc. Mais à quel prix ? À quel prix ? Parce qu'on a sacrifié de la recherche et développement pour des solutions qui pouvaient servir à beaucoup plus de patients en même temps pour des résultats identiques, voire mieux. Pourquoi se focaliser sur ce genre d'innovation m'as-tu vu, alors que des choses qui sont certes moins sexy pourraient servir à beaucoup plus de monde en même temps ?
Il y a d'autres chirurgiens qui partagent vos points de vue.
Oui, bien sûr, un neurochirurgien qui s'appelle Romain Manet, avec qui j'ai une réunion là tout à l'heure.
Ah, ok.
Un neurochirurgien, vous êtes deux.
Un neurochirurgien, oui, qui lui, il travaille dans le
cerveau. Voilà, alors lui, oui, voilà. Donc,
et il prône aussi...
C'est le concepteur, enfin, plutôt le fondateur, d'un think tank avec Philippe Biwix, qui est un ingénieur qui s'appelle Low Tech Med. Et qui.
Biwix, j'avais noté ça, mais je ne savais pas d'où j'avais pris, je n'avais pas quel
voir. Biwix, qui a écrit L'âge des Low Tech, qui est un livre. Et ils ont créé tous les deux Low Tech Med, et donc je suis rentré là-dedans très récemment. Et Romain Manet, qui est neurochirurgien à Lyon.
Oui, c'est étonnant.
Dans un des plus gros centres de France, il est neurochirurgien à Lyon, à l'hôpital public de Lyon. Et qui prône les solutions low-tech, de la même façon que moi, et la neurochirurgie, on peut dire que c'est une chirurgie extrêmement de pointe, qui pourtant n'est pas incompatible avec des solutions low-tech.
Bon, moi, je voudrais encore parler des heures avec vous, mais je n'ai pas le temps. L'émission termine souvent par des conseils, alors pas pour devenir forcément chirurgien, mais je vais prendre mon gamin, c'est plus simple, il a 16 ans, il demande ce qu'il veut faire. Et moi-même, j'ai mis un temps fou. À 30 ans, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Bon. Il ne s'agit pas de... Ouais, avec votre parcours, quel conseil vous pourriez donner à des jeunes gens sur l'orientation, vous avez eu, d'une certaine manière, utilisé des gens qui vous plaisaient. Deux, sur la motivation nécessaire, par exemple, pour faire une première année de médecine, où vous la trouvez, donner des raisons de le faire, là, de pouvoir s'investir autant dans travail scolaire et peut-être des attitudes dans la vie pour s'orienter dans professionnellement. Moi, ma question est très vague, très générale, mais...
Alors, professionnellement, pour moi, c'est... je pense qu'au bout d'un moment, il faut comprendre qu'on n'est pas obligé de suivre exactement les rails qui sont déjà prédéfinis. Donc, c'est-à-dire qu'on peut très bien... devenir chirurgien et opérer les patients qu'on a à faire, etc. Mais je pense que c'est dommage de se priver des solutions interdisciplinaires pour atteindre des bouillonnements culturels et scientifiques qui sont atteints uniquement avec un degré d'expertise élevé dans tel ou tel domaine qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc, si je m'intéresse à l'histoire, il faut que je travaille avec des historiens. Si je m'intéresse aux solutions low-tech, il faut travailler avec des ingénieurs, etc. etc. Et ça ne pas le faire ou bien juste lire des bouquins, etc. C'est très important, mais juste lire des bouquins et s'arrêter là, je trouve que c'est dommage. Il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses et aller travailler directement avec les personnes concernées. Typiquement, j'ai un copain qui est médecin généraliste et qui est fan de voile. Plutôt que de juste regarder le Vendée Globe, il est médecin de course sur la Transat Gilles Vabre, etc. Oui. Et ça, pour ça, il a dû aller vraiment lui-même chercher les personnes, etc. La médecine, avec tous les inconvénients qu'il y a, que tout le monde connaît, en fait, hein, la difficulté, etc. Il y a quand même un énorme privilège, c'est qu'on est assez ubiquitaire dans la société. Il y en a partout, des médecins. Et du coup,
on les regarde tous les milieux, quoi.
Voilà. Et on peut travailler quasiment avec tout le monde parce qu'il y a forcément dans presque tous les métiers, on va avoir une problématique qui sera médicale, que ce soit un ingénieur, que ce soit un historien, que ce soit. Il y aura forcément un moment où il y a besoin d'un médecin juste pour donner un conseil avec son expertise. Et ça, il faut l'utiliser parce qu'en fait, c'est ce que je préfère dans mon métier, moi.
Ouais, si je résume en un conseil, c'est quelqu'un qui s'oriente dans son boulot, commence à enfourcher certaines professions, mais dans ce travail qu'il va faire, il y a tout un environnement génial. Il faut voir comment son boulot traverse les autres boulots. Il y a Deleuze qui disait, je crois, ce que j'aime dans la philosophie, c'est quand il m'amène à discuter avec d'autres gens qui ne font pas de la philosophie. Ouais.
Exactement.
Ouais, ça c'est beau, mais c'est difficile d'avoir cette vision transversale. Il faut faire de l'audace aussi, là, je crois.
Ouais, et puis il faut vraiment écouter les autres spécialités et faire de l'interdisciplinarité. Voilà, c'est ce qui est permis par la médecine aujourd'hui via un argument un peu fallacieux, ce qu'on appelle l'argument d'autorité, c'est-à-dire que je suis médecin, donc je suis légitime à faire de l'histoire, ce qui est totalement faux, mais malgré tout, on a quand même une sympathie de tel ou tel corps de métier scientifique quand on dit « je suis médecin », ce qui ne devrait pas arriver normalement.
Mais c'est un beau métier, c'est comme les pompiers. Enfin, c'est pas comme les pompiers, mais moi, quand je vois un pompier, je donne...
Ouais, mais pour autant, c'est pas normal que j'ai plus de sympathie que si je disais que je fais quelque chose d'autre comme métier. Enfin, je veux dire, par exemple, un agriculteur, ma sœur est agricultrice, c'est pour ça que j'ai ça, mais un agriculteur est tout aussi compétent à faire de l'histoire qu'un chirurgien, parce qu'elle va travailler sur d'autres sujets, et faire de l'archéologie expérimentale en agriculture, c'est absolument capital pour comprendre les mécanismes de production de telle ou telle société. Mais il y en a moins.
Non, mais ce qui vous caractérise, vous, c'est parce que vous arrivez près des historiens avec une question forte. Ces outils-là, on les utilise encore. Pourquoi, comment, et peut-être cela nous interroge même sur le suréquipement, etc.
Oui, bien sûr. Ouais.
C'est ça qu'a nous déduire tous les angles verts.
Voilà, c'était la question que je me posais. Mais c'est quand même très plaisant de pouvoir travailler avec différents corps de métier qui, normalement, de prime abord, n'ont rien à faire avec la médecine. Mais en fait, on se rend compte que, bien sûr que si, il y a plein de choses à faire, plein de sujets à travailler, etc. Et c'est vrai pour tous les métiers, la médecine en fait partie aussi. On peut faire de l'interdisciplinarité en médecine, c'est très facile de le faire parce qu'on a cette sympathie encore... De tel ou tel corps de métier scientifique avec qui on travaille. Et je pense qu'il faut en profiter, même si c'est une sympathie qui est fallacieuse, parce que il n'y a pas de raison. Mais factuellement, j'ai constaté ça quand même, que les portes s'ouvraient facilement, même si ça ne devrait pas l'être. Et je profite de ce privilège pour faire mes recherches scientifiques dans le domaine des low-tech. Et c'est vrai que c'est dommage que d'autres corps de métier y est peut-être moins facilement accès, et c'est regrettable, mais en attendant, c'est ce que je dirais aux jeunes qui veulent faire de la médecine, c'est qu'ils peuvent s'ouvrir à des dimensions magnifiques de recherche et extrêmement stimulantes intellectuellement.
Je voudrais conclure là-dessus, c'est tellement beau et encourageant. Mais il y a une dernière question qui me vient à l'esprit, puisque vous prenez le low-tech, mais d'une façon viscérale, quoi. Si vous y croyez vraiment, c'est un projet politique au sens le plus fort du terme. Vous êtes chirurgien, vous avez aussi monté une entreprise à un moment pour faire des orthèses. Est-ce que Didier, vous viendrez plus tard de fabriquer ou d'avancer sur la question des low-tech en vous exposant à la fabrication d'instruments, pas tout seul, mais avec des gens qui seraient compétents pour fabriquer avec vous ce genre de choses?
Je pense que ça passe pour le coup la phase de fabrication. En fait, il n'a pas vraiment de sens, parce que le but du jeu, c'est justement d'utiliser moins pour avoir un résultat équivalent.
Ah, d'utiliser ce qu'il y a déjà.
Donc, ça voudrait dire la première phase, c'est d'identifier ce dont on n'a pas besoin, plutôt que de fabriquer des nouveaux trucs.
Bonne phrase.
C'est quelque chose que je fais beaucoup dans mes journées quand je travaille. Et je regarde énormément. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, je m'en fous. C'est quelque chose que je fais énormément. Je regarde, je dis, ah tiens.
Nous, on est venus avec un gros matériel.
Et je note, je me fais des petits tableurs.
D'accord. On va conclure là-dessus. Ben, Thomas Daoulas, donc vous êtes chirurgien à Landerneau et au CHU de Brest. Vous faites un travail remarquable. Je ne suis pas historien pour le dire, mais en tout cas, moi, m'a excité, m'a intéressé sur l'histoire des instruments de chirurgie. Et je vous remercie de nous avoir accueillis dans votre hôpital. Ouais.
Merci beaucoup, dans mon hôpital.
De votre. Le plan dans lequel je travaillais.
Et de là, attention. Hein.
Dans mon lieu de travail.
Dans mon lieu de travail.
Merci.
Bon, merci beaucoup.
Alors, merci. À la prochaine.